Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous retrouvons notre économie en folie pour ce mois de novembre avec Bernard. Bonjour.
Bonjour à tout le monde, surtout que l'hiver va arriver.
Et oui, c'est vrai, novembre, ça y est, on a même changé d'heure.
Oui, c'est donc une innovation importante pour économiser de l'énergie, paraît-il. Mais enfin, finalement, il y a beaucoup de gens en Europe qui voudraient qu'on reste sur un système stable sur l'heure.
Oui, enfin, bref, ça c'est un autre débat. Nous parlerons peut-être d'ailleurs de ça dans une économie en folie. Nous allons parler aujourd'hui d'une grande réforme qui est vraiment sur tous les écrans de télé, sur toutes les informations de radio et sur tous les journaux. C'est la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est une réforme qu'il prépare activement. L'exécutif va instaurer un nouveau système universel où la retraite sera calculée par points. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que va être cette retraite réformée ?
Alors, c'est un système de retraite qui prend un exemple sur ce qui existe dans certains pays, en particulier des pays scandinaves comme la Suède. C'est-à-dire que les personnes qui sont en activité cotisent. C'est ce qui est dit dans le discours, si vous voulez, cotisent 1 euro et donc ils ont un point. Et à la retraite, ils touchent en fonction de tous les points qu'ils ont accumulés.
Oui.
C'est un système qui apparaît simple, qui pourrait être quasi universel sur le papier. Et ensuite, surtout, le plus important, c'est que la valeur du point est déterminée par le gouvernement, l'État, lorsque vous partez à la retraite.
Ça sera fait une fois pour toutes, la valeur du point, ou est-ce que ça sera au cas par cas ?
Mais non, justement pas. La valeur du point changera constamment en fonction de ce que dit le gouvernement et donc de ses besoins propres financiers. C'est-à-dire, vous cotisez, mais vous ne savez pas au final ce que vous toucherez.
Vous dites à mesure de ses besoins financiers.
Mais bien sûr, parce que si
donc
on le sent...
Donc ce qui veut dire que si aujourd'hui on verse 1 euro de retraite, s'il lui en a besoin 2, quand on touchera la retraite, le point sera 0.
Eh bien on pourra dire que pour 0, vous avez cotisé 1 euro, eh bien vous toucherez 0,20.
Ah d'accord.
Voilà, point barre. Ça sera le gouvernement. Tandis que les règles actuelles, c'est proportionnel, avec une règle précise, par rapport à ce que vous avez effectivement cotisé.
Oui.
Avec des périodes, des règles sur les périodes, etc. Et ensuite, avec des inégalités qui sont très profondes, nous le savons, à savoir, par exemple, les fonctionnaires, par exemple, ils ont une retraite qui est calculée par rapport au dernier mois de son activité, alors qu'un employé s'est calculé sur une période beaucoup plus importante,
oui,
en durée, qui a d'ailleurs été allongée ces dernières années.
Mm-hmm.
Chacun, avant de partir à la retraite, il sait déjà ce qu'il va toucher. Il fait remplir son dossier, il se renseigne, etc. Tandis qu'à la valeur du point, eh bien, ça sera le jour où il part à la retraite. Le gouvernement a dit le point, ça sera 0,20. Tu toucheras en fonction de ça. Mais un an après, il peut changer la valeur du point. Et ce n'est plus un accord collectif, ce n'est plus un organisme indépendant, ce n'est plus un organisme comme la sécurité sociale.
Donc ça veut dire qu'on peut ne rien toucher du tout
Non, il ne faut pas dire peut-être ça.
Ouais,
mais
si on touche 0,20, c'est qu'il n'y a pas grand-chose.
Mais attends, on le sait bien, il y a des moments où dans un État, on peut être en situation fortement de crise et de besoins financiers. Mais regardons autour de nous en Europe, regardons un pays comme la Grèce, qu'on a mis à genoux tous les gens qui étaient en Grèce, on est tout épuisé. Ben, leur retraite, ça fait maintenant plusieurs années que les retraités en Grèce n'ont rien touché. Il ne faut pas dire que c'est impossible. Mais il ne faut pas dire que c'est certain non plus.
Oui, c'est bien ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des dates ? Est-ce qu'il y a un calendrier qui est fixé justement pour que la réforme soit effective ?
Il y avait un calendrier à l'origine qui était assez strict, mais vu tout ce qui se passe en France depuis un an, en particulier grâce aux Gilets jaunes, il faut reprendre, le gouvernement a remis tout sur la table. Monsieur Macron est allé défendre son projet de réforme de retraite devant des citoyens. Maintenant, dans des endroits, ils font des tirages au sort de citoyens pour venir en débattre. Enfin, tout est remis en quelque sorte sur la table avec des mesures plus pratiques. Mais le principe est bien sûr retenu. Et moi, ce que je dis sur le principe, c'est un principe qui fait problème.
Et oui, bien sûr.
Et ensuite, en faisant ce système-là notionnel, en fait, on ferait disparaître tous les régimes particuliers.
Oui.
Il y en a 47. Que vont dire les employés de la SNCF lorsqu'on leur fera disparaître leur régime de retraite, leur règle de départ à la retraite ? Que vont dire les notaires ? qui ont un système de retraite somptueux, mais qui leur est propre. Hein. Ils payent, ils cotisent. Chaque fois que vous passez devant le notaire, il y a une partie qui part dans leur caisse de retraite. Et lorsqu'ils partent à la retraite, eux, ils touchent beaucoup.
Oui, justement, comment ça va se passer? Parce que quand les gens vont être là devant le fait accompli, ça va grincer des dents, forcément.
Mais ça va grincer des dents, bien sûr. Mais là, le gouvernement a décidé de laisser ouvert, débat, etc. La seule chose, c'est que le chemin est bien tracé. On va passer un système par points. Le chemin est tracé, mais comment on va faire? Comment on va faire pour les gens qui sont nés il n'y a pas très longtemps, mais ne sont pas à la retraite avant plusieurs années? Comment on va faire? Ceux qui sont actuellement à la retraite ne sont pas concernés.
D'accord.
Mais des gens qui vont partir, qui envisagent de partir dans 5 ou 6 ans à la retraite, ou peut-être dans 2 ans, si c'est voté au printemps, que va-t-il se passer? Il y a des tas de petits problèmes pratiques et de gens qui sont mal à l'aise par rapport à ça.
Oui, je comprends. À quel âge le départ de la retraite? Puisque alors, ça aussi, ça rentre dans la réforme.
Mais ça rentre, mais surtout ça ne rentre pas. C'est-à-dire que le gouvernement s'est engagé à ne pas changer de date de départ à la retraite. Mais c'est tout à fait dans la logique du système, puisque votre retraite est en fonction des points que vous avez accumulés au cours de votre carrière. Il faut les accumuler d'abord, les points.
Oui.
Et ensuite, ben, pourquoi vous arrêtez de partir à la retraite? Vous pouvez dire, je continue après 2 ou 3 ans, ou 4 ans. L'âge légal de départ à la retraite, ça deviendra un âge légal où vous pouvez partir à la retraite. On le voit bien actuellement avec les retraités. Certains partent à la retraite à l'âge limite et un certain nombre souhaitent continuer. Et même un certain nombre partent à la retraite et reprennent une activité.
Ce qui veut dire que si, par exemple, on sait aujourd'hui que le point ne vaut que 0,20, est-ce qu'on peut imaginer que le point va augmenter?
Mais oui.
Pour attendre justement de partir...
Sur le papier, c'est j'accumule des points. Quelle est la valeur du point? On ne sait pas. Bien entendu, un gouvernement, à part une crise économique énorme, ne va pas dire vous ne touchez plus rien. Hein? Surtout les retraités, on est dans une démocratie et les retraités votent. C'est déjà pas mal. Et même, on en a vu pas mal sur des ronds-points. C'est déjà intéressant à voir. Mais on ne sait pas. On ne saura pas la valeur du point. On ne pourra peut-être pas faire des calculs ou des anticipations.
Oui.
Ça restera à la discrétion du gouvernement. Et ça, c'est un grave problème, à mes yeux et aux yeux de plusieurs personnes.
Est-ce que ça peut soulever une crise?
Est-ce que ça peut soulever une crise? En l'état, je ne pense pas, puisque tout est ouvert en négociation. Et ça, c'est peut-être... Alors là, on touche le domaine politique. C'est peut-être un effet du gouvernement positif face à tout ce qui s'est passé grâce aux Gilets jaunes. On va prendre des décisions, on annonce le principe général et on remet tout en discussion. Ce qui n'est pas non plus stupide hein, dans une démocratie.
La répartition dans la réforme?
Eh bien, elle disparaît. Elle disparaît. D'accord. C'est la fin d'une certaine forme de solidarité. À l'heure actuelle... Alors là, c'est le caractère de fond. Les gens qui travaillent cotisent, c'est pour payer les retraites. Quelque part, et payer des retraites qui, éventuellement, de gens qui n'ont jamais travaillé. C'est ça la répartition. L'esprit de vivre ensemble et de partager ensemble et d'être une nation. Mais là, avec ce système, on vient, je cotise pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est moi.
Donc là, ceux qui vivent sur un certain système risquent, à l'âge de la retraite, de ne plus rien avoir du tout.
Non, s'ils ont cotisé, ils auront. S'ils n'ont pas cotisé, ils n'auront pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Le minimum retraite, qu'est-ce qu'on en fait? Il disparaît.
Eh oui, tout à fait.
Et qu'est-ce qu'on va faire? Bien entendu,
oui.
On est dans un pays riche, on est un pays démocratique, on a un pays, on a une tradition d'entraide quand même. Donc, ça paraît évident qu'on ne va pas laisser, théoriquement, des gens sans retraite ou sans revenu à la fin. Mais, est-ce que c'est dans l'esprit des personnes, des futurs salariés, on leur dit, vous cotisez pour vous, est-ce qu'ils vont se dire, et je cotise plus pour les autres, je ne veux plus cotiser. Est-ce que ce n'est pas une réforme qui renforcera l'individualisme du comportement social?
Est-ce que la pénibilité va être prise en compte avec cette nouvelle réforme?
Bon, mais c'est dans le débat. Mais la pénibilité, pour l'instant, n'était pas prise en forme, mais elle va l'être parce que c'est une revendication.
Oui.
Comme d'autres mesures, par exemple, par rapport aux personnes qui élèvent des enfants. Donc les mamans ou les gens qui prennent des congés maternité,
oui.
Il va falloir les intégrer dans le régime comme s'ils avaient travaillé.
Oui.
Mais ça, c'est sûr que c'est dans le débat actuel et ça sera fait. Il faut, pour faire passer cette réforme, le gouvernement, il va lâcher des petits morceaux, des petites graines par-ci, par-là.
Oui.
Il va répondre positivement à certaines revendications. C'est le principe global qu'il veut appliquer.
D'accord. Et les carrières longues, ça, il va falloir quand même aussi qu'elles soient prises en compte.
Oui, elles vont être prises en compte. Mais dans quel sens ? Voilà la question.
Tout à fait.
Est-ce que la carrière longue va être extrêmement valorisée ? Que fait-on de ceux qui ont des carrières courtes ? Par contre, il y a de vrais problèmes. On parle des carrières longues, bien sûr. Mais que fait-on de tous les gens qui ont des travaux partiels, des emplois partiels ? Que fait-on de tous ces gens qui circulent dans un camion pour livrer des colis, eh, qui travaillent 2 jours par semaine et qui font à peine de quoi survivre ? Et eux, comment ils vont cotiser ? Comment on en pense d'eux ?
Oui,
c'est
oui.
Ça, la réalité sociale.
Ouais.
Que fait-on dans le monde agricole ? Parce que là aussi, ils vont être intégrés. Disparition des régimes particuliers. Le monde agricole passe sur le système général. Mais dans le monde agricole tel qu'il est aujourd'hui, comment ils vont faire pour certains pour cotiser ? C'est une vraie question. Et où est la solidarité là-dedans ?
Oui, 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 en effet, oui. Et les pensions de réversion, ça va être pris en compte ou ça va disparaître également ?
Bon, il y a 2 écoles. Il y en a qui disent « ça restera en compte » et d'autres qui disent « ça va disparaître
». Ah,
donc,
oui, mais
à l'état des négociations, et les négociations sont prévues jusqu'à l'année prochaine, hein,
oui.
Jusqu'au printemps de l'année prochaine. Pour l'instant, on ne peut pas tellement en parler.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord.
Pour répondre d'une manière assez simple et assez brutale.
Oui. Bon, est-ce qu'il y aura le minimum contributif ? Parce que ça, le rapport Delevoye aussi en parle.
Oui, il disait que théoriquement, dans ce système-là, on pouvait... il fallait d'abord cotiser un minimum, encore faut-il pour y être, et ensuite il fallait aussi un minimum de redistribution.
Oui.
Mais ça, c'est le rapport Delevoye strict. Ce rapport tel qu'il a été publié, je souhaite à chacun d'avoir au moins une semaine pour le lire. Vraiment, c'est très complexe et très lourd,
oui.
Mais c'est quand même un travail très intéressant en soi. Hein. C'est le travail de départ. Aujourd'hui, on en est au-delà. Le rapport Delevoye, même Delevoye, ne le reconnaît pas totalement.
Oui.
Et il faut écouter, d'ailleurs, récemment, il y avait un article que j'ai lu, où M. Delevoye ne reconnaît pas tout à fait tous les éléments de son travail.
D'accord.
Ça évolue, bien sûr. Le rapport de force, comme d'habitude, dans les phénomènes sociaux.
Je voudrais qu'on effleure quand même un petit quelque chose, parce que ça, c'est important. Le bonus et le malus. Alors, pour rappel, il y a une autre réforme qui a déjà concerné les pensions de retraite complémentaires, à partir du 1er janvier 2019. Donc ça, c'est l'année que nous sommes. Et elle concerne les personnes nées à compter du 1er janvier 1957, qui partiront donc à la retraite après cette date. Là, ça va coincer quand même, non ?
C'est technique. Ça va coincer, c'est surtout pour les gens qui sont concernés. Parce que pour l'instant, ce n'est pas éclairé. C'est-à-dire que la décision n'est pas fermement arrêtée au niveau gouvernemental. C'est, je pense, alors ça, c'est plus de l'analyse économique, c'est plutôt une analyse sociétale. Je pense que ça dépendra du rapport de force. Parce que là aussi, il va y avoir des endroits où le gouvernement va revenir à l'arrière ou lâcher. D'ailleurs, à ce sujet, puisqu'on parle des retraites et qu'on voit ce qui se passe autour de nous, et en particulier, il y a des mouvements qui font pour une grève générale sur les retraites le 5 décembre. Eh bien, honnêtement, certainement que l'ampleur de ce mouvement social aura de l'influence sur des détails de ce changement de régime de retraite. Sur des détails. Moi, ce qui me fait problème, c'est le principe global.
D'accord.
Bien sûr, dans les détails, on va obtenir des améliorations. Mais ça ne seront que des améliorations.
Oui.
Il ne faut pas oublier que, par exemple, on fait référence au système. Voilà, dans les pays nordiques, il est extrêmement appliqué. Tout le monde en est content. Oui, oui, tout le monde en est content. En Suède, les retraités, depuis que ce système a été mis en place, une grande majorité de gens qui partent à la retraite touchent 30% de moins que dans le régime précédent qui était comme le nôtre.
Ah oui, d'accord.
Eh oui, cette réalité, très simplement pour une raison, c'est que le gouvernement a modifié la valeur du point. Et donc, ensuite, comment vous obtenez vos points ? Et donc, ça vous vous trouvez avec un certain nombre de points et qui sont moins valorisés.
D'accord.
La vraie question est de savoir, bon, je travaille, mais combien je vais avoir de points à l'heure ou par rapport à mon salaire ? Combien je vais avoir de points ? Et ça aussi, c'est une question qui est dans le détail, qui est fondamentale.
Mmh.
Et là, il y en a certains dans notre organisation sociale qui sont avantagés, à savoir les plus riches.
Et oui, bien sûr.
Et là, on retrouve le problème éventuellement des carrières longues, parce que dans les carrières longues, ils vont cotiser un max. Mmh. Mais ils l'auront voulu.
Oui, tout ça me fait penser à une autre théorie, la théorie du ruissellement. Est-ce que c'est une pluie fine? Est-ce que c'est une grosse averse? Qu'est-ce
oui.
que c'est?
La théorie du ruissellement, c'est une notion économique qui date de plus de 50 ans, même un peu, beaucoup plus, par rapport à certains économistes qui disaient que pour qu'un pays, une activité, pour que ça fonctionne, pour que ça progresse, pour que ça augmente, il fallait que les gens qui avaient l'opportunité, les capacités, l'envie d'avoir beaucoup de revenus, ils aient beaucoup de revenus et qu'on ne les impose que très peu. Parce que ces gens-là, en fait, avec cet argent, ils faisaient fructifier en quelque sorte, ils dépensaient, ils achetaient voitures, voyages, vacances, vêtements, mode, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, y compris personnel pour s'occuper des enfants, personnel pour s'occuper de la maison, personnel pour s'occuper du jardin, personnel pour tailler la haie, etc. Et donc, il faisait ruisseler l'argent, il l'envoyait vers la population, et donc tout le monde en profitait. Et là, on a un exemple qui est extraordinaire, qui n'est pas très vieux, qui est M. Salvini, lorsqu'il était Premier ministre en Italie. C'est quelqu'un qui va redevenir au premier plan de la politique. Mais oui. M. Salvini avait, lorsqu'il a gagné les élections et qu'il a été au pouvoir, la question s'était posée d'augmenter les impôts. Et donc, ce que voulaient les mouvements, certains qui étaient alliés avec lui, voulaient qu'on augmente les impôts, bien sûr, des gens les plus riches en Italie. Et non, il a refusé. Les impôts pour les plus riches en Italie, avec une Italie qui est en très mauvaise position économique, qui va très mal, eh bien, M. Salvini avait refusé d'augmenter les impôts en disant « Mais vous ne vous rendez pas compte ?» En Italie, surtout en Italie, il n'y a pas vraiment de maison de retraite. Pour les personnes âgées, on embauche les gens qui ont les moyens, les riches. Voilà, c'est la théorie du ruissellement. Le riche, il fait profiter la population de sa richesse parce qu'il achète, il achète, il consomme, etc. Il y a une grande remise en cause, oui. puisqu'on a constaté, en particulier aux États-Unis, sous certains présidents où on appliquait cette loi, les riches devaient être encore plus riches, on ne va pas les imposer, etc. Et en se disant, ils vont développer l'économie. Eh bien non, il n'y a pas eu de développement de l'économie, il n'y a pas eu de diminution du chômage à ces périodes-là. Pourquoi ? Parce que consommer, on ne va pas manger 4 fois par jour du beefsteak, on ne va pas aller au cinéma ou au théâtre 5 fois par jour, et par contre, on va peut-être placer l'argent dans des paradis fiscaux ou on va acheter des grands biens dans des maisons, là-bas, dans des zones paradisiaques, etc. Oui. Et surtout, on va le placer pour acheter des entreprises et les rendre encore plus rentables. Mm-hmm. Ça, c'est vrai.
Est-ce que vous pensez qu'en France, on en parle justement de ce ruissellement et est-ce que ça va avoir une influence sur l'économie ouvrière et tout le reste?
On en parle assez régulièrement parce que c'est un des fondements de ce qu'on appelle le libéralisme.
Oui.
Toutes les personnes qui se réclament du libéralisme, de l'économie libérale, toutes ces personnes croient à cet effet dit de ruissellement. Si une partie de la population s'enrichit, la partie la plus pauvre va en profiter. C'est pas tout à fait faux en soi, hein. C'est pas tout à fait faux. Il y a déjà des effets.
Combien vont rester au bord de la route et combien vont en profiter?
Mais oui, bon, mais ça concerne qu'une marge de la population.
Oui.
Donc cette théorie aujourd'hui n'est plus, tendance dans une grande partie des décideurs politiques.
Quelles conséquences ça peut avoir?
Qu'elle disparaisse, la théorie.
Qu'elle reste.
La conséquence, je vous dis avec M. Salvini, à savoir qu'on n'augmente pas les impôts des plus riches. Parce que la vraie question aujourd'hui, elle serait un peu là, quand même. La France est un pays riche, avec une partie de la population qui est riche, mais la richesse est très concentrée, tout le monde le sait. Mm-hmm. Bon, les 1% des Français les plus riches détiennent l'essentiel de la richesse de notre pays. Eh bien, soyons clairs, si on ne les impose pas, ils vont faire ce qu'ils ont à faire et ça roule.
Bon, une autre question aussi qui se pose, c'est l'économie asiatique, plutôt à la baisse de l'économie chinoise. Qu'est-ce qui se passe en Chine alors?
C'est très très curieux, c'est un peu méconnu. Et je pense que ça va devenir un peu au premier rang de la scène, à savoir que l'économie chinoise ne va pas bien du tout. D'abord parce que leur industrie automobile, il y a un problème de reconversion et d'effondrement de la demande. Et ensuite, dans le domaine agricole, ils sont en crise très forte. Et en particulier, on en a entendu parler évidemment au mois d'octobre et même plutôt en septembre, il y a un effondrement complet de l'élevage du porc. C'est la viande qui est consommée en Asie, c'est la viande de cochon, mm-hmm. hein, c'est le pays. Et ils ont des problèmes de virus de grippe porcine, et qui fait qu'ils sont obligés d'abattre massivement et ils n'arrivent pas à se reconstituer. Donc il y a cette perte de confiance dans ce pays et il y a une baisse de l'activité économique. Donc le taux de croissance baisse, ça entraîne quoi ? Eh bien, l'apparition de quelque chose qu'ils connaissaient peu, le chômage en fait. Ça entraîne ensuite une partie des populations vont revendiquer des choses, ce que le gouvernement chinois ne veut pas entendre parler, bien entendu. Donc on voit cet effet, c'est un peu nouveau pour nous. Mm-hmm. C'est de voir la Chine qui a progressé à toute vitesse. Tout d'un coup, on voit qu'ils vont peut-être nous ressembler finalement.
Oui, et quelles conséquences ça peut avoir sur notre économie à nous ?
Eh bien, la conséquence, c'est que nous sommes en business avec eux. Je ne vais pas vous demander, Madame Gisèle, de regarder d'où viennent vos pulls, et etc.
Bien entendu. Si vous pouvez me le demander, moi, ça ne vient pas de Chine.
Voilà. Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des formes de boycott de produits chinois qui sont en particulier le textile en France. Mais ça veut dire aussi que les Chinois, ils vont vouloir nous vendre encore plus, peut-être. Et nous, ils nous achètent plein de choses, il ne faut pas l'oublier. Ils nous en achèteront un peu moins. Et donc, ça aura un effet sur des vendeurs français, sur des produits.
Je suppose qu'ils doivent s'affronter avec les États-Unis, ce qui est un petit peu normal. Est-ce que l'Europe va pouvoir en profiter justement de cet affrontement ?
Là, en ce qui me concerne, à ce jour, ça me paraît difficile d'en parler. Parce qu'en fait, il faut bien voir, il y a eu affrontement et puis tout d'un coup, ils sont tombés d'accord. Là, ils se sont tombés d'accord mi-octobre. Entre les deux pays, en se disant, on ne se fait plus la guerre, on discute un peu, on calme le jeu. Même M. Trump, qui avait mis des taxes très fortes sur les produits chinois, il les a balayées. Bon, c'est le président américain, vous le savez, ce qu'il dit le matin, c'est différent de ce qu'il a dit le soir. Donc, on ne peut pas aller très loin avec ça. Mais, quand même, ça aura des effets sur l'économie mondiale. Il ne faut pas oublier la Chine, hein.
Oui.
L'importance économique de la Chine, le nombre d'habitants. Vous vous rendez compte, si j'étais fabricant de bérets basques, je m'adresserais tout de suite à la clientèle chinoise. 3 milliards de bérets
Chinois,
à terme, ça serait fantastique.
Oui. Est-ce que justement les Chinois peuvent se permettre de craquer actuellement ?
Le gouvernement
chinois...
Est-ce que
ça ne va pas aussi creuser une crise en Europe ?
Toutes nos économies sont liées. Notre monde est lié. Même si, avec certains pays, on n'est pas dans le libre-échange, on échange nos marchandises. Mm-hmm. Regardez, quand je parle des vêtements chinois, par exemple, vous allez aux États-Unis, c'est absolument impressionnant. Quel que soit le magasin où vous alliez, les vêtements, à 99%, ont été fabriqués en Chine. Alors évidemment, avec des prête-noms, vous pouvez en trouver qui ont été fabriqués au Vietnam. Mais c'est des entreprises chinoises. Ou en Thaïlande, c'est des entreprises chinoises. Au Cambodge, c'est des entreprises chinoises.
Oui.
Et vous trouvez tous ces vêtements. Donc, tout d'un coup, si vous barrez les importations, les Américains se retrouvent un peu déboussolés par rapport à la mode pour changer de t-shirt.
Oui.
Parlons clairement.
Est-ce que cet état de fait chinois peut être une bonne nouvelle pour la croissance française ? Ou pas ?
Peut-être. Peut-être que ça peut l'être pour certaines entreprises qui voient, par rapport à la Chine, des clients qui reviennent vers eux, vers leurs produits. Et ça peut être une opportunité. Mais est-ce que les entreprises sont prêtes, certaines, à bien l'analyser et à le faire ? Ça, c'est une autre question.
Mm-hmm. Pour notre économie, est-ce qu'on pense qu'il peut y avoir du néfaste ou pas ?
Il peut y avoir du néfaste parce que ce sont des clients pour nous.
Oui.
Eh oui.
Tout à fait.
Sont des clients et puis aussi ce sont des sous-traitants dans notre industrie. Ne pas oublier par exemple que Airbus fait travailler des Chinois. Hein. Bien entendu.
Oui.
À travers des sous-traitants, bien entendu.
Mm-hmm.
Mais bien sûr, il y a des éléments de nos avions qui sont fabriqués en Chine.
Oui.
Les économies sont liées, ça a été voulu, c'est pas idiot, mais c'est bien.
Oui. Pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait dire entre la réforme, entre le ruissellement qui va vers la Chine, peut-être ?
Oui, le ruissellement vers la Chine, ils l'ont connu peut-être, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne les semaines qui viennent, ce que l'on peut connaître certainement, c'est une amélioration dans la situation économique européenne. Parce que nos partenaires, ce sont les pays les plus proches. C'est l'économie européenne, c'est les partenaires économiques, c'est les partenaires de défense des libertés et des principes démocratiques. Et là, bien sûr, moi ce que je regarde et ce que j'invite tout le monde à regarder, c'est l'Angleterre. Quel mystère. Jusqu'à quand c'est qu'on va voir le Brexit? Ça devient presque angoissant. Mm-hmm. Ils vont nous le sortir pour Noël, ça sera peut-être le cadeau des Anglais. Ça pourrait être le mot de la fin. Un petit peu d'humour anglo-saxon.
En effet. Merci Bernard, à bientôt.
À bientôt.